Bonsoir à tous, c'est Gonzague de Brunhoff qui vous parle. Je suis guide conférencier à Paris et je fais partie d'un groupe, d'un réseau de 15 guides conférenciers qui vous proposent les visites les plus variées, que ce soit de quartiers, de musées, d'expositions. Vous pouvez retrouver notre programme sur la page Facebook d'art et d'histoire, art au pluriel et histoire au pluriel. Ce groupe a été monté à l'initiative d'une de nos collègues guides conférencières. Ces séances, Seigneur, ces séances, venez, entrez, il y a du bon vin, il y a du vin frais. C'est le cri que pousse ce jeune homme sur le seuil de sa taverne, qui fait peut-être aussi auberge, sur la miniature allemande de la fin du XIVe siècle que j'ai sous les yeux, 3, 2, 1. Sur la miniature allemande du XIVe siècle que j'ai sous les yeux, et dont je vais vous faire la description complète, chers auditeurs, et qui servira de support à mon propos de ce soir, 3, 2, 1, et qui servira de support à mon propos sur le vin à Paris, le vin de Paris. Alors, sur cette miniature, nous voyons trois personnages. Le crieur de vin, ce vieux métier que je vais vous expliquer dans quelques instants, qui se trouve sur le seuil de l'auberge ou de la taverne et qui est en train de tendre la main. Au bout de cette main, il y a un verre. Dans l'autre main, il tient l'anse d'un broc, d'un pichet. Est-ce que ce broc contient bien la pinte de vin, c'est-à-dire si l'on était à Paris, pas tout à fait un litre de vin, 0,9 litre de vin. Bref, la mesure officielle du tavernier honnête, toujours est-il qu'il tend ce verre de vin à un personnage qui est encore sur son cheval, mais qui tend la main pour s'emparer du verre. Sans doute est-il très assoiffé, ce voyageur qui vient de loin avec son curieux chapeau exotique, couleur jaune paille, et qui est accompagné d'un compagnon à pied avec un très lourd baluchon sur l'épaule sous lequel il ploie. Au-dessus de la tête de ces deux personnages et débordant du mur pignon de la taverne, il y a une énorme cloche. Peut-être ont-ils entendu cette cloche retentir à partir du XIIIe siècle dans les villes d'Europe. On va voir se multiplier ces enseignes qui sont souvent des enseignes parlantes et qui évoquent, rien qu'en les voyant, le type d'article de produit dont on fait ici commerce ou qui y est vendu ou fabriqué par les artisans. En plus d'être une enseigne parlante, celle-ci est sonnante, retentissante. Elle les a appelés pour leur signaler qu'il y avait du vin frais à boire en ce lieu. Cette scène est campagnarde. À l'arrière-plan, nous avons à la fois une verte prairie et un arbre fruitier. Aussi, cette taverne fait-elle sans doute aussi auberge. Peut-être sommes-nous dans une ville qui accueille annuellement les foires, avec beaucoup de voyageurs de passage, mais nous avons le même type de scène, sinon qu'au lieu de fruitiers, il y a des habitations alentour, lorsque nous sommes à Paris, et ce crieur de vin, nous le trouvons en grand nombre, on estime à peu près à 700 ou 800 tavernes au XVe siècle à Paris. Chaque taverne a dans les parages un crieur, soit sur les places publiques, soit sur le seuil de la taverne, soit au carrefour. Ce métier est extrêmement réglementé. Il arrive que le vin nous mène à certains dérèglements sensuels, dérèglements sensibles. Ne parle-t-on pas de mettre le tonneau en perse pour dire que l'on fait l'amour, entre autres expressions fleuries. Mais s'il y a tous ces dérèglements, il y a aussi et avant tout des règlements. Et ce crieur de vin, un vieux métier dont on voit la trace et dont on connaît le cri grâce au livre des métiers du prévôt des marchands, Étienne Marcel, dès le XIIIe siècle, qui codifie tous ces métiers des grandes villes, eh bien ce crieur de vin, c'est un officier. Un officier jureur, il est assermenté, il a prêté serment au prévôt des marchands de Paris, et c'est lui qui a la charge de donner des amendes à un tavernier malhonnête dont les pintes d'étain ne contiendraient pas la fameuse pinte que je viens d'évoquer, ou qui verserait un vin qui ne soit pas assez frais. Et c'est pour ça que le vin frais, c'est-à-dire le vin qui vient d'un tonneau qui a été mis en perse le matin même, et puis qui est également servi frais, selon le goût de l'époque, eh bien il doit s'en assurer, ce crieur de vin. Aussi doit-il changer chaque jour de taverne, sans quoi il pourrait y avoir une connivence entre le tavernier, faussaire en quelque sorte ou malhonnête, et son crieur. Il doit être là pour percer la barrique, ou pour assister à la mise en perse de la barrique. Il doit être là jusqu'à la fermeture, au moment du couvre-feu. Et puis le guet, parfois, est de passage, pour s'assurer qu'il n'y a pas malhonnêteté. C'est à cette occasion, d'ailleurs, que l'on trouve parfois dans les arrières-salles une femme et son entreprise de maquerellage avec ses prostituées. Bref, beaucoup de règlements. Cet officier doit s'y connaître en vain, ce crieur. Il doit d'ailleurs crier le breuvage qu'il sert, sa qualité, sa quantité. Une loi lui interdit de saisir par la bride le cheval lui-même pour arrêter le voyageur. Faire la réclame, la publicité des produits maison est une chose, tendre de véritables guet-apens à des voyageurs de passage en est une autre. La loi particulièrement italienne est très sévère pour de tels crieurs de vin. Et puis il y a les périodes de vaches maigres, ou les périodes de maladies variées, d'épidémies, ou alors les périodes de guerre. Et il arrive que le crieur de vin devienne, en plus d'être crieur de vin, crieur de corps. Autrement dit, il annonce les décès et il s'occupe des funérailles. Ce n'est pas une manière de dire que le vin était de mauvaise qualité, ce sont bien deux cris différents pour deux activités différentes. Mais tous ces crieurs sont des gagne-petits, alors ils tentent de cumuler 3-2-1. Tous ces crieurs sont des gagne-petits, aussi tentent-ils de cumuler plusieurs métiers. Le cri est simple, il est codifié, il arrive que celui-ci soit enjolivé. Voici par exemple ce que l'on lit dans un jeu, une sorte de petite pièce de théâtre qui est jouée sur les places des villes. Il s'agit ici du jeu de Saint-Nicolas, qui a été donné pour la première fois à Arras, aux alentours de l'année 1200. Je cite: Le vin est nouvellement en Perse, à plein pot et à plainte tonne. 3-2-1. Le vin est nouvellement en Perse, à plein pot et à pleine tonne. Vin discret, beuvant, plein, corsé, et sans goût de pourri ni nègre. 3-2-1. Et sans goût de pourri ni d'aigre. Il court sur sa lie, sec et vif, comme un écureuil dans les bois, clair comme la larme d'un pêcheur, vin inséparable de la langue. Voyez comme il mange sa mousse, comme on le voit sauter, comme on le voit frire. Tenez-le un peu sur la langue, vous en sentirez le goût au cœur. Le crieur de vin, normalement, est plus sobre et moins disert dans la manière de faire la réclame. Et puis quelqu'un qui fait la réclame des tavernes parisiennes, c'est le très grand poète français, sans doute le plus grand de son époque, François Villon. On est au XVe siècle, et François Villon est un poète doublé d'un fort mauvais garçon. On perd sa trace d'ailleurs, alors qu'il est condamné à mort après avoir assassiné un clerc. Il connaît toutes les tavernes de Paris. Voici quelques-uns de ces lieux qu'il fréquente: la taverne de la Chasse, la taverne du Barillet, la taverne du Grand Godet, l'image de Notre-Dame, la taverne de la Mule, où il a raconté comment il a mis au point le cambriolage du collège de Navarre. Bref, en lisant les poèmes de Villon, on a en quelque sorte le guide Michelin de l'époque pour faire le tour des tavernes. Enfin, et je vais terminer en donnant la parole à nouveau à quelqu'un d'autre que moi, au prévôt de Paris, on est en 1397, à la même époque que cette miniature qui met en garde contre les accès de boissons. Voici ce qu'on y lit. Ordonnance du prévôt de Paris. Plusieurs gens de métier et autres du petit peuple quittent leur ouvrage et leur famille pendant les jours ouvrables pour aller jouer à la paume, à la boule, aux dés, aux cartes, aux quilles et à d'autres divers jeux en divers cabarets et autres lieux publics. Que plusieurs d'entre eux, après avoir perdu tous leurs biens, s'adonnent à voler, à tuer, a mené une vie très mauvaise, ainsi qu'il a été reconnu par la confession de quelques-uns de ce caractère. Voilà pour ce petit apéritif au sens étymologique de ce qui vous ouvre l'appétit et peut-être le gosier, et qui vous dispose à entendre toute cette présentation de cette visite guidée, le vin à Paris, le vin de Paris, entre autres thèmes, parce que ceux qui parmi vous se rendront sur la page Facebook d'art et d'histoire, art au pluriel, histoire au pluriel, pourront avoir des visites conférences sur Vermeer, sur Toulouse-Lautrec, sur l'histoire des pandémies à Paris et bien d'autres sujets d'une grande variété. Au revoir.